La Petite Radio.
Salut à tous, c'est Dorsa, bienvenue sur La Petite Radio. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Tiffen, comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais Tiffen n'est pas à côté de moi, on l'entend déjà un peu, elle est au téléphone. Salut Tiffen.
Salut Dorsa, et oui, comme d'hab, je suis là pour t'accompagner, pour pas te laisser seule face à tous nos, à notre milliard d'auditeurs, n'est-ce pas?
Alors, moi, j'espère que la qualité sonore sera au rendez-vous. Normalement, oui, on verra. Alors, Tiffen, aujourd'hui, pour ce 24e épisode, déjà, on va parler d'un concept, le concept du minimalisme. Alors, je vais juste dire en deux mots ce que c'est. Donc, le minimalisme, c'est en fait le fait de réduire ses biens matériels, donc diminuer ses possessions. En gros, refuser le consumérisme. Alors, c'est un mode de vie qui se définit ainsi. Donc, en gros, c'est vivre mieux et heureux, en plus, si possible, avec moins.
Toi, en fait, t'avais envie d'en parler parce que tu te sens concernée. C'est un peu ta philosophie de vie, le minimalisme.
Voilà, non, c'est ça. Non, mais en fait, c'est comme l'histoire du téléphone. Je voulais essayer de décrocher, j'y suis pas arrivée. Minimaliste, c'est pareil. Je voulais être minimaliste, de plus m'attacher aux biens matériels. Bah, encore une fois, l'échec total, parce que j'accumule quand même pas mal de conneries. Voilà, c'est vrai. On a tendance à accumuler plein de choses qui nous encombrent, enfin, qui encombrent notre espace au quotidien. Et je suis tombée l'autre jour sur un article qui parle d'un Japonais de 38 ans, qui habite à Kyoto. Il s'appelle Fumio Sasaki. Et en fait, lui, en gros, c'était un dépensier compulsif avant. Donc, il gardait tout et n'importe quoi chez lui. Il expliquait que, voilà, chez lui, il y avait des DVD, des livres empilés. En plus, c'était un photographe, donc il avait 12 appareils photo. Enfin, tout en exagération. Et dans son nouvel appart, qui est tout petit, hein, quand même, il faut dire, l'appart fait que 20 mètres carrés, mais il a décidé d'être minimaliste. Il a décidé de garder que 300 objets. Alors, ça m'a paru beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. 300, ça me paraît beaucoup.
Ça me paraît pas si peu, ouais.
Alors, attends, parce que après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, mais en fait, 300, ça va super vite parce que ça comprend tout ce que tu utilises au quotidien. Donc, même l'éponge pour faire ta vaisselle, bah, c'est un objet. Donc, ouais. Tu vois, le sel dans ta cuisine, en fait, ça va méga vite. Et ça comprend évidemment les habits parce qu'il va pas aller bosser à poil. Enfin, vraiment, 300, ça va super vite.
Non, parce que si ça compte tout ce que tu as dans ta cuisine, dans ton
exact.
Frigo et tout ça, oui, moi, rien que dans ma cuisine, je vais avoir 300.
Bah, c'est ça, en fait. Parce que rien que le frigo, c'est un, plus tout ce qu'il y a dedans, plus... c'est vrai. Il a décidé de garder ce dont il a besoin dans sa vie de tous les jours, donc garder le strict minimum, parce que finalement, d'après lui, le reste, on n'en a pas besoin. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Au revoir les choses », où justement, il explique comment il a fait pour garder que quelques objets avec lui. Et en fait, c'est en 2014 qu'il a découvert ce concept du minimalisme. Et il voit ceci vraiment comme une philosophie, vraiment comme un état d'esprit basé sur la simplicité et le dépouillement. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire que d'un point de vue logique, c'est vrai que si nous possédons moins de choses, on range moins de choses, forcément, et par conséquent, on a plus de temps pour faire autre chose. Donc voilà, on va utiliser son temps différemment. Et c'est ce qu'il dit aussi, c'est que voilà, on peut au lieu de passer son temps à ranger ses 1000 objets et tout ça, eh ben on va, je sais pas moi, sortir, voir ses potes, voyager, etc. Bref, on va se concentrer sur l'essentiel en fait, le bien-être.
C'est la philosophie du minimalisme d'un célibataire sans enfant quand même. Hein.
C'est vrai. Ça... D'ailleurs, il a pas d'enfant, bizarrement. C'est vrai que ouais, tout seul, c'est quand même plus facile. En fait.
Moi, je pense que quand je vivais toute seule à Buenos Aires, dans mon frigo,
t'étais minimaliste.
Pas grand-chose, hein. Ouais. J'étais assez minimaliste. Hein.
Bah,
je pense que j'avais un yaourt et du pain.
Bah ouais, voilà. C'est vrai. Parce que quand t'es seule, t'es pas obligée de te faire à manger, donc voilà.
Moi, je sortais manger dehors tous les jours. Hein.
Bah donc, tu te concentrais sur l'essentiel, le bien-être, le bonheur.
Exactement.
Et tout ça, en fait, c'est une forme de liberté, enfin, voilà. Donc moi, j'ai envie de dire que tout ça, c'est magnifique. Vraiment, je dis bravo et j'admire ces personnes minimalistes qui ne gardent que l'essentiel. Par exemple, un jean, 3 t-shirts, une brosse à dents et voilà, ton téléphone. C'est très bien, mais personnellement, après 25-30 déménagements dans ma vie, je continue à trimballer toutes mes conneries. Donc c'est une multitude d'objets complètement inutiles, d'appart en appart. Et même quand je change de continent, je les trimballe. Et ces objets, ce qui est drôle, Tiffen, c'est que il y a des cartons qui sont pas ouverts parce que je les ai... ça fait 15 ans que je les trimballe. Enfin, j'imagine que c'est des rideaux, des conneries, j'en sais rien, d'il y a 15 ans. Et je les ouvre même plus. Mais par contre, je les prends au cas où. Bah, ça, c'est le concept du au cas où. Au cas où, bah, je peux en avoir besoin. Mais ça fait 15 ans, 20 ans que j'en ai pas besoin.
Donc, d'accord. Ah oui, alors moi, j'ai justement, là, je pense que c'est une bonne transition pour parler peut-être de ton cas poussé à la pathologie, non ?
C'est oh non, c'est pas vrai. Non, non. Dans mon grenier, oui. Dans mon grenier, oui, c'est le Bronx total, hein, dans ma cave.
L'accumulation ouais. compulsive.
Voilà, ouais.
C'est le fait d'accumuler de manière excessive des objets sans les utiliser, indépendamment de leur utilité, de leur valeur.
C'est exactement
donc,
ça.
Bon. Ouais. Alors, moi, je me gère, quand j'ai lu ça, évidemment, quand tu vois les photos, le mec, il emmagasine des... je sais pas, c'est, je pense, des déchets de canettes, tu vois. Ça peut, en fait, je veux dire, quand tu vas jusqu'à l'extrême, effectivement, tu peux même emmagasiner tes déchets. Ben. Ah, non, et alors, je me suis fait penser à ça aussi hier, parce que finalement... Mon mari avait acheté une douzaine d'œufs et je me suis dit, oh, le petit support en carton des œufs, peut-être que ça pourra servir à mes gosses pour faire des activités d'art plastique, tu vois, donc je les ai gardés. Mais en fait, là, à un moment donné aussi, dans l'article, il parle de... cela peut concerner de garder des supports périmés, genre des disquettes, des vinyles, des timbres, des anciennes lettres. Et là, je me suis dit, oups. Ouais. Moi, j'ai fait ça un peu quand même. Et ouais, donc en fait, c'est un peu une version poussée à l'extrême du collectionneur. Moi, au contraire, les déménagements, ça m'a aidé à me détacher.
À faire le tri. Faire le tri.
Quand j'étais en primaire, je crois que je collectionnais les tickets de métro, ce qui est quand même un intérêt.
Ouais, mais ça c'est sûrement sentimental. Hein. Non, même pas.
Collectionner les tickets de métro quand t'habites à Paris ?
Bah, je sais pas, je te demande pourquoi t'es collectionné ça.
Bah, j'en sais rien, mais je collectionnais aussi, tu sais, les feuilles des calendriers, là. En fait, j'avais ma meilleure amie, elle avait un calendrier où, tu sais, tu retirais une feuille à chaque jour.
Ouais.
Donc, je lui demandais de me les garder. Non, je pense que c'est un intérêt assez moyen.
Mais ça, c'est le... voilà, alors ça, c'est pas un peu le syndrome de...
collectionneur, moi, je me... Enfin, c'est collectionneur. Mais après, c'est vrai que quand ça... C'est finalement, c'est ce qu'ils disent dans l'article sur la silogomanie. Mmh. C'est que, poussé à l'extrême, tu collectionnes tout. C'est-à-dire, tu jettes rien parce que t'es aussi dans le... au cas où, mais vraiment, enfin, ils attachent. Bon, c'est lié souvent à des syndromes aussi dépressifs. C'est que quand ça va à l'extrême, c'est que ça va pas très bien dans ta tête parce que tu accumules tout et du coup, quand ça va vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que ça peut t'empêcher de vivre normalement dans ta maison parce que tu peux plus passer. Par exemple, ta cuisine, elle est complètement envahie je sais pas, de petits rouleaux de sopalin de pots de yaourt vides et tout ça, et ça s'accumule et effectivement l'extrême c'est que tu vis dans des conditions insalubres et du coup il peut même avoir des rats, des insectes
exactement.
En fait, la première fois que j'en avais entendu parler, c'est dans un article d'El País, le journal uruguayen, qui parlait justement de gens dans je sais plus quel quartier de Montevideo où c'est ça, ils avaient je crois que c'était même les pompiers qui avaient dû intervenir parce qu'il y avait eu un incendie, parce qu'il y avait tellement ils avaient emmagasiné tellement de trucs de tout et n'importe quoi que ça avait généré un incendie et puis ça créait des problèmes de santé publique.
Mais ça c'est le syndrome de Diogène, hein, à l'extrême.
Alors, Diogène, voilà, c'est ça. En fait, la silogomanie, c'est vraiment la partie du syndrome de Diogène qui est d'emmagasiner les choses. Mmh, ouais. Et le syndrome de Diogène, ça peut aller plus loin parce que c'est aussi se laisser aller soi-même. C'est-à-dire que tu te laves plus.
En fait, c'est les objets, tu accumules des objets et les détritus. Donc, c'est vraiment dans des conditions insalubres, quoi. Enfin, il y a des apparts, c'est horrible.
Mais
quoi.
En fait, c'est plus complexe que ça, le syndrome de Diogène. C'est-à-dire qu'il y a... tu te négliges toi, tu t'isoles, tu veux rien de... Enfin, je veux dire, c'est quand tu lis vraiment la description, en plus de la silogomanie, il y a un état que moi, je dirais, un peu dépressif quand même, parce que tu t'isoles, tu restes chez toi, tu emmagasines et tu te laves plus, par exemple.
D'ailleurs, le syndrome de Diogène, ça s'appelle Diogène parce que c'est le nom, en fait, d'un philosophe grec au 4e siècle avant Jésus-Christ qui, justement, était isolé et qui vivait dans un tonneau à l'époque. C'est pour ça qu'on appelle ça syndrome de Diogène. Voilà. C'est pour la petite histoire.
Et en plus, j'ai d'autres choses sur la voie publique, je ne recommande pas à nos auditeurs masculins de faire. Mais,
ouais, mais ça, c'est...
Il était libre, Diogène.
Il était libre. Alors, ouais, ça, c'est sûr. Alors, moi, très, très récemment, la semaine dernière, j'ai lu un autre article qui parlait de Michel Lejoyeux. Alors, évidemment, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, Tiffaine, toi, oui, ça te dit quelque chose, puisqu'on en a parlé, évidemment, dans le 10e épisode de La Petite Radio, où on parlait des aliments de la bonne humeur. Hein.
Je dirais même que Michel Lejoyeux n'est pas triste.
Ouais. Alors, donc, pour revenir à nos petites histoires, la rédaction du Parisien a demandé très très récemment à Michel Lejoyeux, qui est, je le rappelle, chef de psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris, d'analyser la psychologie de nos valises. J'ai trouvé ça méga intéressant parce que, en fait, lui, il explique que nos valises reflètent nos personnalités. Donc, la façon de préparer ces valises avant un voyage représente ce que nous sommes. Donc, en gros, c'est un miroir de nous-mêmes. Par exemple, il parle des valises défensives. C'est des valises qu'on prépare pour anticiper une série de catastrophes. C'est des situations exactement de au cas où. Genre, j'exagère pas, je vais partir en week-end 2 jours. Hein. Il va faire 33 degrés, même le soir. Je vais prendre 2 pulls, une veste, 4 bikinis sur 2 jours parce que je me dis, bon, bah, au cas où j'ai un peu froid, bon, j'aurai ma veste et mes 2 pulls. Mais le truc ridicule. Donc, en fait, tu voyages pas léger. Alors, je sais pas si t'en fais partie ou est-ce que tu prends le minimum dans tes valises ou pas, Tiffaine.
Oui, moi, je me suis pas mal améliorée sur ça, je pense. Alors, mais... C'est ça, moi je trouve que je suis un peu bicéphale, je sais pas comment on peut dire. C'est-à-dire pour moi, je suis capable de voyager léger, j'en suis même à oublier des choses.
Tes enfants
pour moi. Voilà, pour mes enfants. Alors pour mes enfants un peu plus grands, ça va, mais alors quand ils sont bébés, alors là, faut dire que mon deuxième, jusqu'à ses 1 an, il vomissait 4 fois par jour. Donc là, j'emmagasinais, je me disais, bon, au cas où il vomisse.
Ouais, les habits de rechange. Ouais,
quand même. Alors là, je pense qu'il avait une valise pour lui.
Ouais, quand tu voyages avec des enfants, bah, moi, typiquement, je vais partir en famille. Donc mon mari, Felipe, me fait ça à tous les coups, même après 10 ans de vie commune. Si je pars 2 semaines avec mes enfants, eh ben oui, je vais enregistrer une valise. Alors lui, il comprend pas. Il dit, mais on est obligé d'enregistrer une valise. Ouais. Bah oui, 2 semaines, et j'ai 2 enfants et moi-même.
Ça, c'est pas voyager lourd quand même, une valise.
Ah bah non, moi je trouve que c'est vachement bien. Alors c'est vrai qu'avant, je voyageais avec 2 valises pleines. Mais maintenant, je fais beaucoup d'efforts parce que c'est vrai que, voilà, on n'a pas besoin de tout. Vraiment, j'ai au moins enlevé une valise. Donc c'est déjà pas mal, donc je suis sur le bon chemin. Donc,
Non, Paris dort ça. Je pense que tu es sûr. Que ton cas n'est pas pathologique. Faudrait non, plutôt voilà. Analyser la valise de Filou.
Ouais, voilà. Donc j'ai pas le syndrome de la valise trop pleine. Je suis contente.
Quand tu vois les stars avec leur mâle Louis Vuitton là.
Et leur 6 nounous derrière.
Ouais, voilà, c'est ça. Salope. Parce que là, oui. Alors justement, pour tester ton état psychologique, puisque bon, là, les auditeurs le savent, on utilise la petite radio un peu pour psychanalyser Dorsa. Hein.
Non, mais pas du tout. Je me soigne.
Bon, en cas d'urgence, Dorsa.
Oh là là.
Je sais pas, la maison brûle, une inondation, c'est la fin du monde. Quels sont les 5 objets que tu prendrais avec toi?
Non, c'est méga dur, ça. C'est pas juste. C'est pas juste que tu me demandes.
C'est pas plus facile. Les gosses et le mari ne sont pas des objets.
Ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Hein. Tu me demandes 5 objets, j'ai déjà 2 enfants, c'est pas juste, ça en fait 3 quoi.
Et le mari.
Ah, le mari, donc voilà, ouais, donc ça compte pas, on est bien d'accord.
Non, c'est pour ça. Ah, tu ne les comptes pas, ce ne sont pas des objets.
Ouais, déjà. Déjà.
Et 5 objets pour toi. À la limite, tu pourrais prendre.
Ah là, bah, c'est dur.
Pour toi.
Donc, dans l'urgence, parce que c'est aussi, il faut se mettre dans la situation. Hein. Donc, quand c'est urgent, tu vois ta maison qui brûle. Alors, je pense que je prendrais évidemment mon iPhone. Hein, okay. Non, mais tu rigoles, mais oui, c'est important. Mon iPhone, si j'ai le temps, je prends mon chargeur d'iPhone. Non, je prendrais ma clé de voiture. Parce que bon, pour fuir, je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Mon ordinateur. Donc en fait, je me rends compte que c'est quand même vachement technologique, quoi. Je suis quand même liée.
Il en reste 2. Deux.
Non, mais c'est dur. C'est méga dur. Hein. L'iPad, ça compte? Non, mais alors, on va pas mettre l'iPad dedans.
Non, mais passeport. Moi, je prendrais mon passeport.
Oh la vache, j'ai oublié le passeport. Mais je suis grave, moi. oui, c'est juste.
iPhone, ordi, iPad.
Non mais c'est vrai, hein. Non mais je peux même pas quitter le pays si j'ai pas mon passeport. Non mais je suis grave là. Hein.
Ouais.
passeport, évidemment, et de l'argent, si possible. Ouais.
Ouais, moi, je prendrais ma carte bancaire, passeport, mon téléphone.
Ouais. Donc, je me rends compte, je suis à côté de la plaque, hein. Total. Hein.
Bon, après, ça compte pas les vêtements que tu portes sur toi, quoi.
Bah après, s'il y a le feu, puis que tu dors que avec la goutte de parfum Chanel sur toi, que tu n'as rien sur toi, c'est mieux de prendre un petit truc en sortant, non?
Oui,
ouais,
oui, oui.
Voilà. Mais ouais, non, c'est difficile comme question. Mais c'est vrai que je pense que dans la panique, t'as peut-être pas forcément le temps de réfléchir. Donc oui, le passeport, évidemment, évidemment.
Enfin. Moi, ça me fait flipper, tu sais, c'est dans les avions où quand tu prends l'avion, ils te disent, bon, en cas d'urgence, ne prenez aucun bagage. Rien, bah, même pas dur. Ton sac à main, quoi. Et alors là, moi, pour moi, ne pas sortir avec mon sac à main, c'est genre, c'est comme sortir à poil pour moi.
Bah ouais, parce que t'as tout dedans, ouais, évidemment. Ouais, mais tu vois, t'es dans l'avion, il y a une catastrophe et ils ouvrent le toboggan pour amerrir. Bah évidemment, si tout le monde prend son sac, c'est un peu le bordel. Donc je pense que c'est pour ça. Bah oui.
Attends, oh, j'ai mon, comment ça s'appelle ? Mon Vanessa Bruno, là, de
ouais.
50 litres.
Et puis mon iPhone dans l'eau, je pense que ça ne sert à rien.
Mais... Bah oui, oui, il faut être pragmatique, faut être pragmatique. Non, mais je pense que tu n'es pas si mal en point que ça, Dorsa.
Ah, ça me rassure. Ouais. Mais qui sait, peut-être que je vais adopter ce concept du minimalisme. Non, mais j'y arriverai pas, hein, clairement.
Non. Non. On y croit.
Oui, oui, c'est ça. Donc. Bon, Tiffen, qu'est-ce que tu nous as choisi comme chanson ?
Alors, j'ai choisi un trio de petites meufs. Alors, on connaît la chanteuse parce qu'on l'a déjà diffusée sur la petite radio. Alors, pas en tant que leader, mais je sais pas si tu te rappelles, on avait passé le chrome et le coton de Jérôme Etchénoz. Et ben, la voix féminine, donc c'était une certaine Anna Jean, qui est donc la chanteuse du groupe Junior, dont on va vous passer la chanson qui vient du dernier album, là, qui est sorti en 2017. La chanson, elle s'appelle Panique. Et Anna Jean, il se trouve qu'elle est aussi la fille cadette de JMG Le Clésio, donc écrivain français, français ou suisse d'ailleurs. Je me demande s'il ne vit pas en Suisse, bref. Et prix Nobel de littérature il y a peu.
Wow.
Donc voilà, donc sympa, c'est assez. C'est rock, ça bouge.
Ah, c'est cool.
Junior Panic.
Eh ben écoute, on va écouter ça. Ouais, ouais, moi j'ai écouté ça hier soir. Tu me l'as envoyé. Non, c'est sympa, c'est vrai. Alors on passe Junior Panic et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. À tout à l'heure.
Comme un champion électrique.
Voilà, on est de retour pour la deuxième partie.
Alors, je voulais préciser à nos auditeurs que Jean-Marie Clésio est bien français. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu ce doute. C'est peut-être parce que à la dernière élection présidentielle, il avait dit qu'il rendrait son passeport français si une certaine personne gagnait. Mais bon, ça ne s'est pas produit. Donc, Jean-Marie Clésio est toujours français.
Ben voilà, merci voilà. Pour la précision. Alors, on passe à notre rubrique « Vue sur le net ». Alors, je vous emmène en Chine maintenant, à Hong Kong. Et je vais vous parler des appartements cercueils qui existent à Hong Kong. Alors, il faut savoir que la crise du logement là-bas est exponentielle. Et il y a près de 7,5 millions d'habitants à Hong Kong. Et le moindre espace est utilisé pour créer des logements. Ces appartements cercueils, c'est des appartements qui varient entre 1 mètre carré et 10 mètres carrés.
Rien que le nom, quelle horreur. Ah non, c'est horrible. Le nom, c'est ça, c'est, tu te mets là pour mourir, quoi.
Non, mais c'est vraiment, t'es allongé. Bah oui, c'est ça, en fait, t'as pas de place. T'as pas de... Donc t'es allongé et tu fais tout dedans. Donc évidemment, tu cuisines, t'as tes toilettes, mais t'es... Enfin, moi j'ai vu des photos, c'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment la taille d'un cercueil. Alors il y a quelques temps, il y a un photographe du National Geographic qui est parti là-bas, Benny Lam. Il s'est rendu sur place et a photographié ses logements en prenant 14 clichés pour surtout montrer en fait l'envers du décor de cette ville qui est touristique et qui est riche. Voilà, il avait envie de montrer qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la richesse et qu'il y a des personnes qui vivent dans des conditions insalubres. Alors sur ces photos, on voit justement dans quelles conditions ils vivent, dans ces 2 mètres carrés. Donc ils font tout, hein. Et voilà, comme je disais, ils y mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, bref, c'est vraiment pas facile. Et bien sûr, il n'y a pas de fenêtre et vraiment c'est minuscule. Voilà, il y a des problèmes de, tu sais, les bed bugs, comment on appelle ça, les punaises de lit, enfin bon, bref, les insectes, machin, pas facile.
Déjà, moi j'avais entendu parler des hôtels capsules
au Japon.
Mm-hmm. Tu vois, mais bon, dormir une nuit,
non, mais ça c'est pas pareil, hein. Ouais, c'est pas pareil,
c'est quand même différent que de vivre.
Non, mais c'est les hôtels capsules, c'est pas pareil parce que d'ailleurs il y a Sandy Wong, je crois que c'est l'année dernière qu'il a pas lancé les hôtels, mais les appartements capsules, donc version vraiment ultra améliorée du truc, donc ça fait 2 mètres carrés et ça a un coût de 335 € par mois, donc c'est assez épuré, c'est blanc, enfin c'est propre, quoi, je veux dire. Il y a même, donc dans ces 335 € par mois, le Wi-Fi est inclus. Alors, il n'y a toujours pas de fenêtre, non, mais il y a du Wi-Fi. Et il y a une télé incluse. Voilà, je ne dis pas que c'est grand, ça reste 2 mètres carrés, mais c'est quand même c'est propre et moderne, quoi. Donc, évidemment, ouais. C'est ultra prisé, ça. Y en a à Hong Kong, c'est ultra prisé. Et voilà, ça marche quand même plutôt bien. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vivent là-dedans. Mais pour revenir aux appartements cercueils, donc, j'ai déjà du mal à dire que c'est des appartements parce que pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai vu un reportage où il y a une personne qui vivait dans 1 mètre carré. Super difficile d'imaginer ça, hein, vraiment dans 1 mètre carré. Et évidemment l'hygiène n'est pas du tout au rendez-vous et le photographe attire l'attention en fait sur le fait que ses habitants sont comme tout le monde, souvent ils travaillent la journée. Alors, évidemment il y en a qui travaillent pas, mais il y en a beaucoup qui travaillent et ils rentrent dans leur 1 mètre, 2 mètres carrés le soir, bref, c'est des conditions horribles. Et d'ailleurs l'ONU a dénoncé ces logements en les assimilant à une insulte à la dignité humaine.
Là, moi je suis en train de regarder des photos et c'est vrai que Déjà, je vois des apparts là de 3 mètres carrés. Tu dis 1 mètre carré, mais c'est quoi?
Ouais.
Parce que 3 mètres carrés, là, le mec, il a quand même pas beaucoup d'espace, hein.
Alors, ça, c'est le mec ou la femme qui habite seule. Alors, j'ai vu aussi qu'il y a des familles avec des bébés et des enfants. Donc, ils sont à 4. Ils sont à 4 dans 3 mètres carrés. Non, mais. Enfin, bon, bref, voilà. Hong Kong, c'est pas que la richesse. Il y a aussi ça. Et c'est vrai que même pardon, le photographe qui a pris ses clichés, il a eu vraiment beaucoup de mal et il disait que le soir, bah, il est rentré en pleurant chez lui, quoi. Enfin, qu'on ne se rend pas compte, hein, dans quelles conditions certaines personnes vivent.
Tu vois ton japonais, conclusion, ton japonais avec ses 20 mètres carrés quand même, 20 mètres carrés
C'est le
pour
gros
lui tout
luxe, hein.
seul,
C'est le luxe, hein.
de quoi tranquille? Ah,
Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai.
parce que là, on est vraiment dans la version minimaliste.
Ouais.
Là, le mec dans ses 3 mètres carrés, oui, il doit pas avoir 300 objets, hein.
Non.
Et que dalle, là.
Oh là là.
Il fallait en parler, c'est intéressant. C'est vrai que ça permet de connaître une autre réalité de la vie des gens sur la planète, quoi.
Alors, Tiffen, je crois que tu as un
Bon,
coup de
moi j'ai
cœur.
un, oui, moi j'ai un coup de cœur, un truc bon, un peu plus léger que les hôtels, les maisons cage à Hong Kong. Je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, qui vraiment, on me l'a offert là quand je suis allée en France et j'ai dit, mais c'est quoi? Mais il faut être malade pour m'offrir un livre comme ça. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un livre, alors certains d'entre vous doivent le connaître parce que ça a été un gros succès d'édition en France, d'abord en Allemagne et puis en France. Donc c'est un livre de 350 pages sur l'intestin.
Avec
Donc
des
ça
photos ou
s'appelle
sans photos?
avec des dessins.
Ah, ok.
Donc le charme discret de
Sympa.
l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Donc l'écrivain est une jeune médecin allemande, Julia Enders. Et les dessins, donc le livre a aussi des dessins faits par sa sœur, Jill. Donc, eh ben écoutez, donc j'ai commencé à le lire, je me suis dit, non mais vraiment, c'est quoi ce truc? Eh ben c'est passionnant. J'en suis, alors je n'ai pas encore terminé, j'en suis à la page 203, mais je sais déjà maintenant la position idéale pour chier efficacement.
Oh.
Non mais vraiment, donc ça c'est au chapitre numéro 1. Ensuite, par exemple, non mais ça, enfin, je veux dire, là c'est les parties drôles, enfin moi qui me font rire, donc effectivement elle explique que dans la nature finalement on faisait caca accroupi et que physiologiquement ça correspond bien à une manière efficace de faire caca et que finalement assis tout droit sur des toilettes, c'est pas du tout efficace. Alors ça peut aller de ces choses très drôles, mais en fait ça explique aussi tout le système digestif, la vie en fait d'un morceau de gâteau partout il passe et tout ça, et c'est complètement fascinant. Alors effectivement, bon, ça commence à se savoir, mais l'intestin a énormément de neurones. On commence à l'appeler le deuxième cerveau de notre corps. Je sais plus
Ouais, il y
combien
a eu
il y en a.
des
Je crois que
articles
c'est quand
là-dessus,
même
ouais.
200 000. Et en fait, il y a un lien direct entre l'intestin et le cerveau via le nerf vague. Et donc finalement, grâce à ce livre, on comprend pourquoi on dit avoir la peur au ventre ou avoir l'estomac dans les talons, enfin toutes ces expressions du langage populaire qui reflètent qu'effectivement beaucoup de nos sensations, beaucoup de nos sentiments, de nos émotions, on les sent par le ventre. Et ben ça vient pas de nulle part. On comprend mieux d'où ça vient grâce à ce livre et notamment elle explique. Alors ça j'ai pas encore lu donc. C'est le suspense, c'est que finalement on est habité par des millions, des milliards de bactéries. Par exemple, elle dit dans chaque gramme d'excréments, il y a plus de bactéries que de gens sur la planète, par exemple. C'est vraiment un truc énorme. Mais donc, et ces bactéries, ils font des tonnes d'essais, ils sont en train de les étudier, et ces bactéries pourraient influencer notre humeur. Par exemple, ils ont des expériences un peu crades, hein, qu'ils font avec des souris qu'ils élèvent de manière stérile, c'est-à-dire elles naissent de manière stérile, c'est-à-dire césarienne, stérile. Après, elles sont élevées dans un environnement stérile, donc elles sont sans bactéries. Donc, ils étudient leur comportement. Et après, elle leur injecte telle ou telle bactérie. Et en fait, leur comportement change. Et elle voit que finalement, sans bactéries, bah, elles sont assez amorphes, elles n'ont pas d'énergie. Et hop, tu leur injectes tel type de bactéries, elles changent leur comportement. Donc ça montre qu'en fait, tout le monde parce que c'est un vrai univers qu'on a au niveau du ventre, de plus en plus, ils sont en train de montrer que ça influe ce qu'on a dans notre tête.
Moi, j'ai plutôt envie de savoir pourquoi on t'a offert ce livre. Il y a sûrement un message subliminal derrière. Pourquoi ?
Non, je pense que c'est parce que c'était...
C'est drôle. Oh, drôle et intéressant.
Ouais, non, mais ça t'explique. Bon, ça t'explique ça. C'est vrai que ce côté des allergies et le lien avec le cerveau, moi, je trouve ça tout à fait fascinant. Mais il y a aussi, effectivement, ça t'explique aussi pourquoi on peut avoir des allergies au gluten ou des allergies au fructose ou au lactose. En fait, à quel niveau ça se passe et pourquoi ça se passe, tu vois. Pourquoi, par exemple les lipides, donc c'est ce qui est vraiment digéré en dernier et ça passe pas par le même circuit que les... c'est digéré au niveau de l'intestin et ça passe pas par le même circuit que les glucides et les protéines, non? Et ça va direct via le système lymphatique, ça va direct dans ton cœur. Il y a des illustrations, mais des illustrations, vous regardez la couverture du livre, voilà, c'est des illustrations rigolotes. C'est-à-dire, c'est pas des illustrations type livre de médecine. Hein. Vraiment passionnant. Hein.
Ah bah, ça a l'air. Hein. T'as l'air de kiffer grave ton bouquin.
Je kiffe. Et dès que je peux, d'ailleurs, par exemple, mes collègues ont le droit au résumé du chapitre que je viens de lire le midi. Parce que vraiment, je trouve ça totalement fascinant. Alors... et drôle. Hein. Enfin, moi, c'est vrai, quand tu lis ça, c'est pas des choses dont on parle d'habitude. Donc... finalement, c'est, je sais pas, je trouve ça drôle.
Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre et l'auteur ?
Voilà, donc ça s'appelle « Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé ». Et l'auteur, donc c'est Julia Enders. Je vous recommande, ça se lit très bien. N'hésitez pas, non, ce n'est pas ennuyant.
Ça n'a pas l'air, en tout cas.
Ouais. 305 pages sur l'intestin.
Ah bah cool, hein. Peut-être que tu me le prêteras, je sais pas.
Pas besoin d'être une fanatique de bio, de biologie. Non, c'est super, je vous le recommande.
Ouais, merci Tiffaine. On arrive au bout de ce 24e épisode. De toute façon, on va se retrouver bientôt. Et d'ailleurs, tu sais que c'est bientôt les 1 an de la petite radio.
La Félix,
ouais.
La Félix.
Ouais, début septembre, donc ça sera pour l'épisode numéro 26.
Ce sera plein de surprises et de fans.
Ouais, en attendant, je vous passe la dernière chanson. Un chanteur qui s'appelle Navi et il a repris un tube de Zaz. La chanson s'appelle Ébloui par la nuit, donc version mec. Chanson qui date de l'année dernière, 2016. Voilà, on se retrouve très bientôt. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Continuez à nous envoyer des chansons. C'est vraiment un plaisir pour nous de les écouter et on les passe dans la mesure du possible.
Des idées de sujets aussi. Si vous avez envie que nous parlions d'un sujet en particulier, d'un sujet
bien
qui
sûr.
Vous parle tient à cœur, n'hésitez pas à nous donner des idées.
Voilà, vous nous envoyez un email contact@lapetiteradio.com ou dorsa@lapetiteradio.com. On vous embrasse, à très bientôt. Merci Tiffaine.
Bisous, bisous.
Bisous, à bientôt. Ciao.
Ébloui par la nuit. À coups de lumière mortelle, à frôler les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingles. Je t'ai attendu 100 ans, dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle, à shooter les canettes. Aussi paumé qu'un navire, si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé même pire, tu es venu en sifflant. Dans ce métro rempli des vertiges de la vie, à la prochaine station, petite européenne. Mets ta main, descend là, au-dessous de mon cœur. Ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle. Faut-il aimer la vie, ou la regarder juste passer? De nos nuits de fumette, il ne reste presque rien. Par la nuit, à coups de lumière mortel. Un dernier tour de piste avec la main au bout. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant.
La petite radio.